Merci, bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs, bienvenue à notre conférence hebdomadaire de tous les mercredis. La conférence de ce jour sera animée pour l'équipe pays, pour le pilier développement Florence Marshall. Nous avons pour le pilier humanitaire Médard Lobota. Le commandant Dienne va vous donner des informations concernant la situation sécuritaire et militaire. Nous avons aussi avec nous le général Patrick de Gramont qui pourra, si besoin était, vous donner des informations supplémentaires. Et moi, je suis Madnoj Mounoubaye. Concernant la MONUSCO, le Conseil de sécurité continue de suivre attentivement la situation en RDC. Hier, mardi, le Conseil a reçu un briefing de la part de Mme Susana Malcora, qui était l'émissaire spécial du secrétaire général des Nations Unies lors des dernières réunions de Kampala. Participait aussi à ce briefing M. Hervé Latsous, sous-secrétaire général des Nations Unies chargé des opérations de maintien de paix. Le week-end dernier, du 24 au 25 novembre, la MONUSCO a envoyé à Bukavu et Goma une délégation conduite par le représentant spécial du secrétaire général, le représentant adjoint du secrétaire général des Nations Unies chargé de l'état de droit, le général Abdallah Wafi. La délégation est revenue avec 22 magistrats qui avaient quitté Goma après l'entrée du M23 pour des raisons de sécurité. À la date du 26 novembre, 180 Congolais avaient aussi été extraits de Goma pour les mêmes raisons humanitaires. Je passe tout de suite la parole à Florence Marshall pour vous donner des informations sur concernant le pilier développement.
Merci Mounoubaye, bonjour à tous. La République démocratique du Congo est l'un des premiers pays au monde à être doté d'une stratégie nationale cadre pour la réduction des émissions liées à la déforestation et à la dégradation des forêts. RED Plus. La présentation officielle a eu lieu hier à Kinshasa en présence du vice-premier ministre en charge du budget, du coordonnateur résident du système des Nations Unies, des partenaires au développement, ainsi que des représentants de la société civile et des opérateurs économiques. La RED Plus a pour objectif de récompenser financièrement les pays qui réduisent la déforestation et la dégradation de leurs forêts et qui augmentent les stocks de carbone forestier, contribuant ainsi à l'atténuation du changement climatique. Soutenu par le programme ONU-RED et notamment par le programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD et la Banque mondiale, la RDC se prépare depuis 2009 à ce futur mécanisme financier international afin de placer ses 145 millions d'hectares de forêts tropicales au cœur du projet de développement durable de ce pays. Un fonds qui sera géré dans un premier temps par le PNUD a été créé afin de mettre en œuvre la stratégie RED+. La stratégie et les fonds seront présentés dans les prochains jours à la conférence des Nations Unies sur le changement climatique qui se tient actuellement à Doha. Des documents sont disponibles à l'issue de la conférence de presse sur ce point. Le nouveau rapport de la Journée mondiale de lutte contre le sida, intitulé « Résultats du programme commun des Nations Unies sur le VIH-Sida, ONU-Sida », montre qu'une accélération sans précédent de la riposte au sida génère des résultats au profit des personnes. Lancé chaque année en marge de la Journée mondiale de lutte contre le sida, célébrée le 1er décembre, ce rapport indique que le nombre de nouvelles infections à VIH a été réduit de plus de 50% dans 25 pays à revenus faibles ou intermédiaires, dont plus de la moitié sont en Afrique subsaharienne, région la plus durement touchée par le virus. L'Afrique subsaharienne, qui a également réduit d'un tiers le nombre des décès liés au sida sur les 6 dernières années, et augmenté de 59% le nombre de personnes sous traitement antirétroviral sur les 2 dernières années seulement. Le lancement de ce rapport mondial est pour la RDC l'occasion de faire le point sur la réponse nationale au VIH et c'est ainsi que ONU-SIDA vous invite à prendre part à une conférence de presse organisée ce vendredi 30 novembre à 15h dans les locaux d'ONU-SIDA situés avenue du Livre à la Gombe. Donc conférence de presse sur la situation du VIH en RDC organisée par l'ONU-SIDA ce vendredi à 15h dans les locaux d'ONU-SIDA avenue du Livre. Je vous remercie.
Merci. Je passe la parole tout de suite à Médard Lobota.
Merci, monsieur le porte-parole. Sur le plan humanitaire, quelques 128 000 personnes sont encore déplacées dans des sites à Goma et ses alentours. La plupart de ces personnes se sont déplacées à la suite des combats entre l'armée nationale et les combattants du mouvement du 23 mars, M23, dans la province du Nord Kivu. Plus de 11 000 personnes déplacées sont arrivées dans la zone de Minova, dans les territoires des Kalehe au sud Kivu, en provenance des Kiroche, Mugunga, Sake, Sacha, dans le Nord Kivu. Les partenaires humanitaires ont commencé à répondre aux différents besoins exprimés lors des évaluations initiées la semaine dernière. Restons au Nord Kivu, où plus de 81 000 personnes bénéficient actuellement d'une distribution des rations de vivres pour 3 jours du Programme alimentaire mondial. Cette distribution s'est faite au même moment qu'une assistance en articles non alimentaires. Au 26 novembre, plus de 13 000 ménages avaient déjà bénéficié des articles non alimentaires du Fonds des Nations Unies pour l'enfance, dans le cadre du mécanisme de réponse rapide au mouvement des populations. En tout, 22 000 ménages, soit environ 110 000 personnes, sont visés dans cette opération de distribution de biens non alimentaires. Au sud Kivu, certains acteurs humanitaires à Minova ont évacué leurs équipes ou les ont mises en VS en attendant de voir l'évolution de la situation sécuritaire. Cette situation a perturbé la réponse humanitaire en cours dans la zone et certains partenaires ont positionné de l'aide humanitaire, notamment au niveau de Bukavu, pour faire face à un éventuel afflux de déplacés en provenance de la province du Nord Kivu. Toujours à Minova, selon des sources humanitaires, des éléments de l'armée nationale ont occupé 5 écoles primaires et auraient utilisé des pupitres comme bois d'échauffe, ce qui peut compromettre la scolarité de plus de 5 000 élèves. L'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, prend actuellement en charge plus de 200 personnes blessées en traitement dans des centres de santé du Nord Kivu et du Sud Kivu. Les campagnes de vaccination prévues ont dû être suspendues en raison de l'insécurité en cours dans le Nord Kivu. Et enfin, contrairement à certaines rumeurs, les agences humanitaires des Nations Unies n'ont pas fermé certains de leurs bureaux à l'est du pays. Le personnel reste mobilisé, parfois dans des conditions très difficiles, pour assurer la continuité de l'assistance humanitaire. Certaines agences, comme le Programme alimentaire mondial, ont même renforcé leurs équipes pour faire face à la crise à l'est du pays. Je vous remercie.
Merci. Je passe la parole au commandant Dienne.
Merci, Monsieur le porte-parole. L'environnement sécuritaire à l'ouest de la République démocratique du Congo a été jugé calme la semaine dernière. En province orientale, l'environnement sécuritaire est demeuré instable depuis le 19 novembre à cause des manifestations menées par les populations de Bounia contre le personnel des Nations Unies pour exprimer leur mécontentement suite à l'occupation de la ville de Goma par le M23. Plusieurs résidences ont en effet été pillées et des biens de valeur emportés. Toutefois, le calme est revenu grâce à la médiation de la MONUSCO et des autorités provinciales, et ainsi les populations locales vaquent normalement à leurs occupations quotidiennes. À cause de la prise de la ville de Goma le 19 novembre par les éléments du M23, la situation sécuritaire est demeurée tendue et volatile au Nord Kivu durant la semaine écoulée. Le poste opérationnel de la force de la MONUSCO déployé à l'aéroport de Goma continue de renforcer ses positions défensives autour de l'emprise aéroportuaire par le déploiement de plusieurs véhicules blindés qui conduisent sans relâche des patrouilles de jour comme de nuit dans le but de dissuader toute attaque du M23. Les violents combats ayant opposé les troupes gouvernementales aux rebelles du M23 le 22 novembre 2012 dans la localité de Sake et ses environs ont provoqué le mouvement des populations locales, parmi lesquelles 300 personnes déplacées, 4 représentants du HCR et 17 représentants des ONG qui ont trouvé refuge au poste opérationnel de la force de cette localité. 8 individus blessés au cours de ces affrontements ont reçu les soins de première urgence à l'hôpital de niveau 1 du poste opérationnel de la MONUSCO de Sake. Durant la même période, le poste opérationnel de la MONUSCO de Bounia-Yampouli a également accordé refuge et protection à 47 personnes et 9 véhicules appartenant à 3 ONG œuvrant dans sa zone de responsabilité. Les éléments du M23 ont traversé Moubambiro et se sont déployés vers Saké. Ils occupent présentement les collines de cette localité et celles avoisinantes afin de dominer la région ainsi que l'axe routier vers Mouchaké et Minova. Le 21 novembre 2012, des éléments du M23 positionnés dans les collines de Goma ont arraisonné un bateau civil qui voulait accoster sur une jetée privée, l'obligeant ainsi à se rendre au quai du port de Goma conformément à leurs instructions données par la direction de la rébellion. À la même date, deux mutins du M23 se sont rendus au poste opérationnel de la MONUSCO de Imbi et remis à la section DD3R pour leur prise en compte. Le 24 novembre 2012, la rébellion du M23 a tiré à partir des collines de Goma 3 obus sur un bateau qui naviguait sur le lac Kivu pour l'obliger à se conformer à leurs injonctions adressées à tous les navires. Les projectiles sont tombés dans le lac sans causer de dommages. Le 25 novembre 2012, deux éléments armés ont été tués lors des accrochages avec les FRDC dans la zone du complexe administratif de Masisi. 5 autres civils ont également été tués et 500 personnes déplacées se sont réfugiées au poste de la MONUSCO dans cette localité pour leur protection. À la même date, la force de la MONUSCO a renforcé le plan de sécurité interne de Goma par le déploiement de patrouilles intensives autour des sites importants et dans les centres urbains dans le but de dissuader toute action des forces négatives et de protéger les populations civiles. Le premier bataillon indien a par ailleurs renforcé dans les quartiers Ndosho et Kiyoshoro la protection du personnel et des installations des ONG, CTO et CAGET travaillant pour la réhabilitation d'enfants soldats sortis dans les rangs des groupes armés. Dans la perspective d'une attaque probable des éléments du M23 contre Minova, Bukavu et l'aéroport de Kavumu, l'environnement sécurité est resté tendu au sud Kivu. Dans le but de soutenir l'opération conjointe Djenga-Usalama, consolider la paix et d'assurer la protection des populations civiles contre les représailles des groupes armés, le 2e et le 3e bataillon pakistanais ont établi 2 postes de commandement conjoints, 7 postes de commandement avancés et 45 postes opérationnels. En outre, le poste opérationnel déployé le 2 novembre par les forces spéciales égyptiennes de la force de la MONUSCO à Numbi, situé à 18 km au sud-ouest de Minova, continue de soutenir sans répit les opérations héliportées dans la région et de protéger les populations civiles en menant des patrouilles intensives dans le cadre de cette opération. L'opération conjointe MONUSCO-FRDC Tahazari Alerte se poursuit normalement. Le 21 novembre 2012, la brigade du Sud Kivu de la force de la MONUSCO a conclu au centre de formation de Lubérizi la session de renforcement des capacités au profit de 239 officiers des FRDC. Dans la nuit du 22 au 23 novembre 2012, le colonel Kahasha, alias Foka Mike, ancien du M23, s'est évadé de la prise de la maison de détention des FRDC après des négociations non concluantes sur la reddition des éléments de son groupe armé. Le 23 novembre 2012, lors d'une réunion avec la MONUSCO, les autorités administratives et militaires du Sud Kivu, le gouverneur de cette province et le général Masungju, commandant de la 10e région militaire des FRDC, ont exprimé à la brigade du Sud Kivu de la MONUSCO leur satisfaction pour tout le soutien logistique accordé aux FRDC et également pour la protection des populations civiles dans la province. Le 24 novembre 2012, la compagnie uruguayenne de patrouille navale de la MONUSCO, URPAC, a mené des patrouilles intensives sur toutes les voies d'eau principales menant vers la province afin de dissuader toute activité des groupes armés et de rassurer et protéger les populations riveraines. Au Katanga, la situation sécuritaire est demeurée relativement calme. Elle reste cependant volatile dans le territoire de Mitwaba à cause d'accrochages qui ont récemment eu lieu dans cette zone entre les FRDC et les éléments Maïmaï-Gédéon. Le 21 novembre 2012, la section de la protection de l'enfant de Kalemi de la MONUSCO a rapporté le recrutement d'enfants de moins de 15 ans par les milices Gédéon, Louawa, et Osei Mutanga dans le territoire de Manono. Dans le secteur 2, le calme est revenu à Kisangani suite aux manifestations initiées contre la MONUSCO le 20 novembre par environ 1000 étudiants. Enfin, concernant les statistiques des patrouilles, la force de la MONUSCO a mené 1141 patrouilles armées, dont 545 nocturnes et fourni 37 escortes, pendant que 314 autres patrouilles ont été menées par les observateurs militaires de la force. Merci.
Merci, mon commandant. Nous allons tout de suite passer à la deuxième partie de notre rencontre avec les questions et